en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le vendredi 17 novembre 2006, l'Académie des inscriptions et belles-lettres organisait un colloque en hommage à Jean Filioza autour du thème « Sciences et médecine en Asie ». Jean Filioza a imprimé une nouvelle direction aux études indiennes par son œuvre scientifique et ses différentes activités au sein des institutions auxquelles il a appartenu. Il entra à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1966. Il fut membre de la Société asiatique dont il fut vice-président. Il enseigna au Collège de France. Il fonda l'Institut français de Pondichéry en 1955 et dirigea l'École française d'Extrême-Orient de 1956 à 1977. Lors de cette journée d'études de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean-Marie Durand, correspondant de l'Académie, fit une communication sur le thème « Les premiers médecins en Mésopotamie, l'exemple de Marie ». Cette communication s'inscrit dans les travaux de recherche consacrés à l'histoire des sciences et en particulier de la médecine initiée autrefois par Jean Filioza. Retrouvons Jean-Marie Durand, correspondant de l'Académie, en grande salle des séances.
Il existe en Mésopotamie, pour ce qui concerne la médecine et la pharmacologie, de considérables corpus théoriques ou pratiques comportant des observations cliniques, des conseils thérapeutiques, ainsi que des traités portant sur des collections d'herbiers, pour une bonne part incomplètement publiés, voire même non encore reconstitués dans leur intégralité. Si l'on ajoute à cela l'attention extrême portée à la maladie par les textes divinatoires, on constate que le souci de la santé, ce qui est d'ailleurs bien normal, constitue un domaine majeur de la littérature d'ordre cunéiforme. Ces textes, pour la plupart, sont récents, fin du deuxième millénaire et surtout premier millénaire avant notre ère, leurs précurseurs des hautes époques qui commencent à être redécouverts posent encore de grands problèmes de lecture et de compréhension. J'avoue humblement que tous ces textes excèdent de très loin mes compétences et que je ne suis capable à leur égard que d'une approche de stricte philologie. Je tiens cependant à dire avec satisfaction que nous avons désormais en France un groupe dynamique qui s'est voué à l'histoire de la médecine d'expression cunéiforme et qui est constitué par de vrais médecins capables de dominer suffisamment la philologie de ces textes pour les plier à leur savoir-faire technique. Cela est une bonne chose car on a trop vu en assyriologie, pour l'amusement certain de vrais spécialistes, ce que pouvait donner l'approche de réalité anatomique par des gens qui n'étaient armés que de leur simple innocence philologique. C'est dans le souvenir du grand savant que nous commémorons aujourd'hui et qui, lui, savait vivifier par un vrai savoir-faire technique sa lecture attentive des textes que je me tournerai aujourd'hui vers une approche plus historique et sociale du fait médical en Mésopotamie. La richesse événementielle des textes de Marie, dont je m'occupe plus particulièrement, fournit en effet, en ce domaine comme en d'autres, beaucoup d'informations concernant les domaines de la santé, le monde des malades et de leurs médecins. Je m'interrogerai d'abord sur le phénomène de la maladie dans le corpus des lettres de Marie. Comme les lettres sont écrites pour l'information du roi, on est surtout au courant de graves épidémies et épizooties qui affectent le royaume ou l'armée et qui font l'objet de rapports des gouverneurs. Il est dès lors normal que la capitale ou le milieu palatial soit beaucoup moins concerné par ces événements. Ce n'est pas que les gens y fussent en meilleure santé, comme on l'a cru avec trop d'optimisme, mais parce que le roi a d'ordinaire sur ces lieux des rapports oraux directs non écrits. C'est ainsi qu'on a eu l'impression que la grande épidémie qui ravagea le royaume sous le roi Samsiadou n'avait pas touché la capitale. En revanche, dès que le roi était loin de chez lui, des rapports le tenaient au courant des événements dramatiques qui se produisaient dans un milieu palatial, caractérisé par une assez considérable promiscuité de plusieurs centaines de femmes ou d'enfants et par l'absence quasi générale d'installations sanitaires. Nous possédons dès lors de nombreuses indications sur les maladies des dames du harem et les moyens d'en venir à bout, ainsi que sur les maux des grands serviteurs, ce qui, par contre-coup, donne l'impression qu'il n'y a de malade que chez les grands personnages, autre distorsion de notre documentation. Un premier fait s'impose. La panoplie des maladies semble très limitée. Rares sont les formes qui les désignent, les termes qui les désignent, tout comme contradictoires en paraissent les symptômes. Un exemple en est fourni par le vocable « simmum », terme qui désigne dans certains cas une maladie de peau, du genre d'un furoncle, mais dans d'autres signifie clairement la blessure qui résulte d'un coup, quand il n'a pas le simple sens de maladie. On trouve ainsi dans un texte d'Ougarit, postérieur à Marie, la remarque « Il y a beaucoup de simmum, je n'en connais pas les noms de tous ». L'idéogramme sumérien qui lui correspond est d'ailleurs l'idéogramme Gig, qui signifie en sumérien simplement maladie, ce qui en acadien se dit murtsum, c'est-à-dire désagrément. Un second fait, mis à part les blessures dues à des combats dont on ne nous parle jamais, la partie du corps malade par excellence sont les pieds, sans que nous puissions dire s'il s'agit véritablement du siège de la maladie, une sorte de goutte qui s'abattrait sur le malade, etc., ou un simple euphémisme qui note l'impossibilité de se déplacer et de venir accomplir le service royal. D'une façon générale, et le point est d'une importance extrême pour notre sujet, les gens ne parlent pas de leur santé au roi et font comme si tout allait bien. C'est là, fondamentalement, une question de savoir-vivre. De la même façon, une lettre doit obligatoirement à l'époque se terminer, après information sur les problèmes locaux, même graves, par l'assurance que Monseigneur ne doit pas s'inquiéter. Si tout n'est pas rentré dans l'ordre, cela est en train de se faire ou ne saurait tarder. On ne doit donc présenter au roi que l'image d'un monde heureux. On a depuis longtemps remarqué que la langue ne documente pas le porteur de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Il n'y a que le porteur de bonnes nouvelles qui reçoit un nom, c'est-à-dire c'est le Mubassirum. Le concept de mauvaise nouvelle n'existe pas, c'est un fait général d'ailleurs dans les langues sémitiques. Il ne saurait donc être fait allusion qu'à la santé des autres, car elle fait partie des sujets d'information. On ne parle de sa propre santé que lorsque l'état de cette dernière se trouve affecté irrémédiablement le service que l'on doit au roi. Elle est dès lors de la même sorte que la crue du fleuve, la chaleur excessive, l'arrivée des ennemis, un événement extérieur à la volonté, ce que les Grecs appellent l'état ou kephémine, qui contraint une bonne volonté tournée tout entière par principe à l'accomplissement de la volonté du roi. Il y a un tabou, donc, qui consiste à ne pas parler de soi, comme il en existe un autre à ne pas montrer les signes extérieurs de son chagrin sous peine de choquer les gens. Cette affectation de bonne santé est évidemment une preuve que l'on est un bon serviteur. Un serviteur valétudinaire ne serait pas apte à bien servir le roi. C'est ce que l'on dit de Rishia lorsqu'il est question de faire de cet homme le maître de musique du palais. Il a une petite santé et il ne faut donc pas lui donner le poste. On a un cas dramatique de cette éthique, touchant les sujets de santé avec Sam Etar, un des principaux ministres de Zimrilim. À la convocation que lui envoie le roi de venir discuter d'affaires de politique étrangère de la plus haute importance, il répond qu'il n'a déjà pas pu venir pour la fête de la dynastie, car le médecin lui a enjoint de ne pas bouger sous peine de perdre la vie. Il exhorte donc le roi à se passer de lui désormais. Cela revient à une démission de ses fonctions, et de fait, très peu de temps après, il meurt. La belle mort du serviteur est illustrée par celle du gouverneur Sumcho Rabbi. Voici comment on raconte sa mort. Il n'a pas été malade un jour ou deux. Il a dit « Mon pied me fait mal ». Au moment même où il disait « Mon pied », il a ajouté « Ma paume me fait mal » et tout aussitôt de rendre le souffle. C'est-à-dire qu'il a servi le roi jusqu'au dernier moment. Comment pouvait-on trouver l'origine de la maladie et la guérir ? Est-il possible de croire à la médecine ou de la pratiquer comme nous l'entendons, à savoir comme la science qui maintient la bonne santé ou la restaure, dans un monde où une très forte croyance est que tout est décidé par les dieux et que ce qui y arrive de bien ou de mal n'est que la manifestation de leur humeur. Il est donc nécessaire d'interroger les dieux pour savoir ce qui arrive aux patients et, secondairement, comment le mal évoluera. L'origine de la maladie est en effet une décision divine et la maladie entre dans une problématique de pureté à logique religieuse qui ne peut que difficilement faire sa place à des préoccupations prophylactiques. C'est pour cela que le plus souvent la maladie est appelée « main de la divinité », indiquant que la divinité a touché ou bien a frappé, le terme est absolument le même en babylonien, le patient. Cela explique les aspects contradictoires des symptômes pour une même appellation qui fait référence à la même divinité, laquelle manifeste sa colère de façon diverse. Cela pose le problème des rapports entre le devin et le médecin. Le médecin ne procède cependant pas lui-même à une interrogation portant sur ce qui a pu, dans le passé, fâcher la divinité. De la même façon que le juge s'en remet à l'épreuve ordalique ou à l'interrogation hépatoscopique pour discerner le degré de culpabilité de l'accusé. Le médecin comme le juge sont des techniciens du traitement, mais l'étiologie ou l'enquête de responsabilité leur échappe. On comprend qu'il soit dès lors possible d'appeler le médecin plutôt que le médecin pour guérir un malade. On comprend également la place des incantations dans l'exercice de la médecine. La thérapeutique confine alors à des pratiques de manipulation magique, inspirées fondamentalement par des mises en équivalence entre microcosme et macrocosme. Beaucoup d'aspects du Yajurveda pourraient effectivement avoir leur écho dans les agissements babyloniens. Je me suis volontairement abstenu de comparaison qui, aujourd'hui, serait restée au niveau de juxtaposition anhistorique. Je voudrais appeler l'attention sur plusieurs façons de dire très courantes à l'époque. Dans la Bible, les multiples fléaux qui s'abattent sur l'Égypte sont dénommés à partir de Passar, qui indique la marche impitoyable du justicier. L'anglais a gardé le terme de Passover pour désigner la Pâque juive, mais le terme Passachum est bien documenté désormais à Marie pour indiquer la marche impitoyable d'une armée qui qui accomplit un raid de destruction. L'épidémie est exprimée par l'expression « le Dieu mange », comme s'il assouvissait ainsi la faim de ce qui lui manquait. Or, on trouve de même dans la bouche d'un prophète Mariotte la question posée par une divinité « Que me donneras-tu à manger ?» C'est une menace d'épidémie. On livre dès lors un agneau au prophète qui le dépèce et le mange cru. La fin du mal est exprimée par l'expression « le Dieu s'est calmé, itur ». C'est exactement la même expression pour dire que le malade a guéri. Ou encore « le Dieu est revenu à de bons sentiments, issalim », ce qui est l'expression qui indique que la maladie est apaisée. Pour ce qui est du traitement, plusieurs actes peuvent néanmoins induire en erreur l'observateur moderne. Les Mésopotamiens croyaient-ils que la maladie se propageait du coupable à l'innocent par simple contiguïté physique, ce que nous appellerions une contagion mécanique. Plusieurs indices montrent que le fait est bien observé, mais compris de façon particulière. Quand on voit ainsi, dans la même nuit, les trois fils d'un chef bédouin mourir tout soudain, on murmure que c'est un indice que le père détient indûment chez lui des biens sacrés. Ce n'est pas un fait de contagion, ce n'est qu'une manifestation de l'ampleur de la colère divine ou de la faute paternelle. Après une épidémie, on procède à un grand rituel de purification. On brûle les victimes, alors que le rite normal envers un mort est celui de l'ensevelissement du corps, aussi entier que possible. On appelle en outre, au moment de la peste, un corps de chantres spécialisés qui accomplissent leur liturgie, sans doute en sumérien et non dans l'acadien qui est la langue vernaculaire. Cette crémation vise-t-elle à se débarrasser de corps jugés dangereux à cause de leur miasme ou parce qu'ils ont été frappés par la colère divine? La question paraîtrait sans doute oiseuse à un ancien, mais la crémation peut néanmoins témoigner du recours à un rituel archaïque et manifester des préoccupations uniquement religieuses. On peut se poser les mêmes questions à propos des femmes malades du palais à mettre en quarantaine. Le roi demande à propos de l'une d'elles qu'on ne boive pas dans sa coupe, qu'on ne mange pas à sa table, qu'on ne s'assoie pas sur sa chaise. La reine écrit également à propos d'une autre, « Pour l'heure, je l'ai fait habiter dans les bâtiments neufs. Table et repas sont séparés, vers sa couche ou son siège, nul ne doit s'approcher. » Ce qui là encore empêche que l'on voit un simple souci prophylactique, c'est la remarque du roi à propos d'une pauvre dame Soumoudoum. Comme les présages qui la concernent ne sont pas bons, elle est perdue. Il faut donc qu'elle meure dans l'isolement, sans traitement. Il est donc courant que les malédictions d'ordre juridique appellent sur le contrevenant des malheurs comme l'épilepsie ou les maladies de peau, qui ont beaucoup d'aspects la colère divine, frappant le méchant. La plus terrible de toutes est celle qui éradique sa race du monde des vivants, comme l'absence de postérité, quoique la stérilité semble avoir surtout été un fait féminin et non masculin pour les gens de cette époque. On comprend pourquoi le médecin, c'est-à-dire la soume, se manifeste surtout à nous comme un chirurgien, quelqu'un qui rafistole le corps en mauvais état, membres cassés, plaies qui suppurent, etc. Très souvent, la soume est un simple spécialiste S-cataplasme ou bandage. Les maladies internes Fièvre maligne ou récurrente, ainsi qu'asthénie, sont des signes d'un mauvais vouloir divin qu'il faut comprendre et apaiser. Plusieurs aspects montrent néanmoins que la pratique courante de la médecine, telle que l'illustrent les lettres de Marie, n'épuise pas tout l'art médical. Il y a d'abord des médecins célèbres, mais dont on ne nous dit pas à quoi tenait le succès. L'un d'eux néanmoins, qui porte comme nom propre une épithète qui désigne une maladie des yeux et qui semble en même temps être sous l'étroite tutelle de son frère, pourrait bien être, comme le Semilio du Satyricon de Fellini, quelqu'un dont le simple contact du fait d'un don divin qui lui avait été octroyé pouvait suffire à guérir. Il y a surtout la figure mystérieuse pour nous de celui que les textes appellent « médecin de Mardaman », épithète malheureusement jamais accolée à un nom propre. Mardaman est une ville du nord de la Mésopotamie, au contact avec les montagnes où poussent des essences exotiques et où l'on se procure des produits rares, inexistants dans la plaine. Il devait s'agir là du recours à une pharmacopée différente. Et il y a de fait à l'époque une curiosité très grande envers les produits d'ailleurs, que l'on essaie d'acclimater chez soi pour pouvoir y recourir en cas de besoin. C'est cependant dans le jardin d'un devin que l'on trouve un spécimen d'une plante rare dont on avait besoin pour une médicamentation. Ce qui reste cependant le plus fascinant, mais que je ne peux qu'aborder en conclusion, c'est de se demander ce que ces gens du XVIIIe siècle avant notre ère pouvaient avoir comme conception du corps lui-même. Il existe une conception du corps qui fait des distinctions au sein du vivant. Le corps d'un bovin n'est pas ainsi divisé de la même façon que celui d'un ovin ni d'un homme. Nous avons, d'autre part, de forts indices qu'à l'intérieur du corps humain, il existait pour les Mésopotamiens de l'époque deux sortes de sang, l'un qui transmettait la race, l'autre qui permettait la vie. C'est un domaine qui est tout entier d'allusion à l'heure actuelle et où l'on espère que la multiplication des documents permettra d'aller plus loin que ces quelques remarques finales pour, disons, élargir le débat.
Vous venez d'entendre Jean-Marie Durand, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de sa communication sur le thème « Les premiers médecins en Mésopotamie, l'exemple de Marie », dans le cadre de la journée d'études du 17 novembre 2006, consacrée au thème « Science et médecine en Asie », en hommage à Jean Filiosa et organisée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.